Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel.
Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage et dans mon émission Au fil du lien. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Agnès Boucher, qui est écrivain, mais un écrivain éclectique. Elle écrit des romans policiers, des nouvelles, des romans historiques. Bonjour Agnès Boucher, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Daniel, merci à vous de m'avoir invité.
Je vous en prie, merci pour nos auditeurs. Alors je vous présente comme un écrivain éclectique.
Oui, absolument, c'est une des raisons pour lesquelles j'écris, c'est justement changer de style, changer de mode d'histoire, changer de même de thème. Pour moi, voilà, varier un peu et avoir du plaisir à écrire et à découvrir de nouvelles choses.
Et à découvrir notamment le matrimoine. Parlez à nos auditeurs. De cette notion.
Alors en fait, c'est quelque chose qui m'est venu au fil de l'écriture, parce qu'au début, j'y pensais absolument pas, mais mon premier ouvrage était consacré à trois compositrices qui ont été empêchées par des hommes, et ces hommes étaient des génies, puisqu'il s'agissait de Félix Mendelssohn, Robert Schumann et Gustav Mahler, et que ce soit la sœur de Félix qui s'appelait Fanny Mendelssohn, la femme de Robert Schumann que tout le monde connaît, qui s'appelle Clara Schumann, qui était une pianiste de génie, ou Alma Mahler, ont été empêchés par leur conjoint ou frère de composer. Pour Fanny Mendelssohn, c'était volontaire. Ils lui ont vraiment dit qu'il ne fallait pas qu'elle compose parce qu'elle était femme, parce qu'elle était de bonne famille et parce qu'elle était juive. Même si elle était convertie au protestantisme. Alors, c'était une autre époque, hein. Voilà, il faut aussi toujours recontextualiser. Clara Schumann, en fait, elle s'est un peu fait avoir parce que Robert était prêt à ce qu'elle compose quand ils étaient fiancés. Puis finalement, il l'a empêchée parce que c'était sa composition d'abord, ses œuvres d'abord. Et Gustav Mahler a été finalement le plus franc de tous puisque, en fait, il a écrit une lettre d'une vingtaine de pages à sa fiancée avant le mariage en lui disant qu'il n'y aurait pas de compositeur dans le ménage. Donc, soit elle l'épousait et elle arrêtait de composer, soit elle ne l'épousait pas. Et c'est Alma qui a décidé de l'épouser. Donc, c'est elle qui a choisi, finalement, de ne pas devenir compositeur. Et en fait, en découvrant ces femmes, je me suis vraiment posé la question, moi-même, avec quelle femme je m'étais construite. Parce que on a tous besoin de modèles. Et moi, j'appartiens à une génération où, en fait, on avait très peu de femmes réellement arriver dans des professions différentes. Je ne sais pas, par exemple, moi, je me suis construite avec des gens comme Elisabeth Badinter, avec bien sûr Simone Veil, Simone de Beauvoir, Colette, Virginia Woolf, les sœurs Groult, voilà, des femmes comme ça. Mais au bout du compte, j'allais dire, je peux les compter sur les doigts des deux mains. Alors que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes femmes peuvent se construire avec plein de femmes qui réussissent dans des tas de domaines. Et en fait, je me suis dit, mais toutes ces femmes qui aujourd'hui peuvent advenir, est-ce qu'hier, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elles ont existé? Et je me rends compte, en fait, qu'il y en a plein qui ont existé. Mais finalement, on les a oubliées. Elles sont tombées, sitôt elles mouraient, sitôt on les oubliait. Mmh. Et comme je m'intéresse particulièrement à la musique classique, c'est vrai que j'ai commencé à travailler sur la musique classique. Donc j'ai découvert également dans un autre ouvrage que j'ai écrit, qui s'appelle Le compositeur est une compositrice, j'ai découvert des compositrices françaises. Là, je suis en train de travailler sur un nouvel ouvrage, pareil, qui sera consacré à des compositrices françaises. Mais ça peut être aussi des autrices, des écrivaines. Alors moi, c'est les domaines qui m'intéressent, mais il y en a plein d'autres, des scientifiques qui souvent étaient derrière les hommes.
Mm-hmm. Alors votre propos, Agnès, c'est de leur restituer leur place.
Oui, de leur restituer leur place et leur juste place. C'est-à-dire que c'est pas du tout dire qu'elles étaient meilleures que les hommes mais simplement, par exemple, si je reprends l'exemple de Fanny Mendelssohn, c'est une femme qui était aussi géniale que son frère. Et son père lui a dit, tu as les mêmes talents que ton frère, mais parce que tu es une fille, tu resteras à la maison. Et elle a pu advenir en tant que compositrice et que musicienne dans la sphère privée, parce qu'elle donnait des concerts, voilà, elle a pu se réaliser, mais pas dans la sphère publique, uniquement la sphère privée. Voilà. Et c'est en fait révéler ces femmes qui ne sont pas nécessairement meilleures que les hommes, mais qui ont quand même existé, qui ont été reconnues à leur époque, mais qu'on a oubliées. Parce que les femmes ont aussi une force, enfin quelque chose qui est contre elles, une force contre elles, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le réseau des hommes. Donc en fait, elles ne se promeuvent pas les unes les autres. Alors aujourd'hui, oui, mais hier, non. Et donc je considère que si je peux un tout petit peu faire connaître quelques femmes à notre époque, moi je trouve que c'est, voilà, c'est simplement commencer à mettre en valeur ces femmes et à leur reconnaître qu'elles ont apporté à l'humanité, puisque l'humanité est quand même double. Il y a les hommes, il y a les femmes. Et pourquoi est-ce qu'on ne parle que des hommes ou on n'a parlé que des hommes et pourquoi on ne parlerait pas autant des femmes ?
Oui, alors donc votre rôle, c'est aussi de travailler sur le lien, hein, c'est-à-dire les idées qui se communiquent, les projets, afin que chacun puisse aussi avoir connaissance, comme vous dites, de personnalités féminines, artistes ou non, qui ont œuvré dans leur domaine, mais qui n'ont pas pu se faire entendre. C'est une sorte de combat.
Oui, oui, oui. Et moi, c'est vraiment c'est pas du tout dans un esprit revanchard ou combatif ou en opposition aux hommes. Pas du tout. C'est beaucoup plus dans la parité et de l'enrichissement mutuel. J'ai découvert assez tard quelqu'un comme Frida Kahlo, la peintre. Je suis pas du tout branchée peinture. C'est pas quelque chose. J'adore ça, mais je ne suis pas une connaisseuse. Mais, voilà, c'est une femme qu'on redécouvre enfin, mais pourquoi est-ce qu'il y a si peu de sculptrices qu'on connaît ? Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de peintres alors qu'elles ont existé ? Quand on parle de sculptrices, par exemple, on parle toujours Camille Claudel.
Oui.
Ouais, y en a sûrement d'autres, donc il faudrait effectivement aller les chercher.
D'accord. Et vous pensez qu'à l'époque actuelle, les femmes ont plus de réseaux, en tout cas savent mieux l'utiliser ?
Oui, je pense. Alors, il y a encore du boulot, hein. Il y a toujours, de toute façon, comme le disait Simone de Beauvoir, il faudra toujours se battre. Et chaque victoire sera de toute façon à conserver. Il faudra toujours se battre pour conserver ce qu'on a gagné. Ça, j'en suis persuadée, hein. Ça, il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot à faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des réseaux féminins, hein. Il y a beaucoup de réseaux féminins, même entrepreneuriaux, qui se sont créés. Parce que les femmes ont peut-être une autre manière de travailler ensemble, de se soutenir, etc., que les hommes. Moi, je le vois dans les réseaux d'entreprises dans lesquels je suis. Souvent, les hommes vous diront « tout va bien, je vais bien, mon entreprise va de manière extraordinaire, etc. etc. » Une femme sera capable de vous dire qu'elle en bave et que c'est pas si rose. Est-ce qu'elle a raison, est-ce qu'elle a tort ? Je n'en sais rien. Mais on ne fonctionne pas forcément de la même manière parce qu'on n'est pas éduqué. Encore aujourd'hui, on n'est pas éduqué de la même manière et qu'on a quand même des millénaires à rattraper.
Alors, est-ce que ce n'est pas une force de savoir justement exprimer ses émotions et ses sentiments ?
Oui, ça je suis tout à fait d'accord. Mais justement, il faut maintenant réapprendre. Je vais pas dire comme une certaine femme politique qu'il faut déstructurer les hommes, déconstruire les hommes.
Surtout pas.
Non, surtout pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut vraiment. Et là, c'est les femmes qui ont un vrai rôle à jouer et les mères, c'est-à-dire construire les hommes, les petits garçons, comme les filles et les filles comme les garçons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que une fille peut jouer au même jeu qu'un garçon. Il n'y a pas de jeu pour les garçons, il n'y a pas de jeu pour les filles. Il n'y a pas d'émotion pour les garçons, il n'y a pas d'émotion pour les filles. Elles appartiennent à tout le monde. Et je pense que c'est une vraie richesse même pour les hommes.
Partager les connaissances et les champs de compétences.
Exactement. Et puis se découvrir finalement en soi, qu'on soit un homme ou une femme. Quel que soit notre genre, puisque maintenant c'est le nouveau mot utilisé, découvrir ce qu'on a réellement en soi.
Alors vous parlez comment Agnès d'art, de culture, de musique classique, d'histoire qui vous passionne, et d'une certaine manière, si on veut parler des hommes et des femmes, on peut aussi parler de leur appétence pour la créativité. Ça, c'est quelque chose qu'on peut partager.
Absolument. Et la créativité n'est pas masculine. Le génie n'est pas masculin.
Bien sûr.
Il faut simplement le laisser s'exprimer.
Alors, Allez-y.
Oui, non, je vous en prie. Non.
Alors, est-ce que justement, ce n'est pas une accroche pour éviter, voyez, les combats d'opinion autour du féminisme, voyez, avec des réflexions un peu clivantes qui peuvent mener finalement à être contre-productifs?
Oui, oui. Moi, je pense sincèrement qu'on doit se construire ensemble. On peut s'apporter des tas de choses les uns les autres. On n'est pas obligé de se construire contre, on peut se construire avec.
Oui.
Et moi, toutes les histoires que je raconte, les hommes et les femmes, que ce soit des romans policiers, que ce soit les essais sur les compositrices ou que ce soit les romans historiques que j'écris, il y a des hommes, il y a des femmes, et en fait, on se rend compte qu'ils peuvent parfaitement advenir ensemble.
Faire route commune.
Exactement, exactement.
Alors, vous vous intéressez beaucoup à l'histoire, oui. Donc en fait au destin de femmes notamment, mais pas seulement. Et donc oui. À travers tout finalement tout ça, il y a aussi la question de la transmission, encore une fois des connaissances, de la mémoire, de l'aspect intergénérationnel.
Absolument. Et dans le dernier livre que j'ai écrit, je fais un lien puisque c'est tentant entre guillemets.
Allez-y.
Le dernier livre que j'ai écrit est donc consacré à une femme que j'ai découverte très récemment, enfin très récemment, c'était avant le confinement, qui s'appelle Alma Rosé, qui était une violoniste, qui est née en Autriche, et qui elle est vraiment dans la transmission puisque son oncle était Gustav Mahler, son père était violoniste, il a été un des meilleurs violonistes européens à la fin du 19e et au début du 20e siècle, il s'appelait Arnold Rosé. Il était premier violon à l'orchestre de l'Opéra de Vienne, au Philharmoniker de Vienne. Et il avait créé un quatuor et il a transmis sa passion du violon à sa fille. Et il a poussé sa fille à se réaliser, à advenir. Elle a créé un orchestre à Vienne, un orchestre de femmes. Mais elle interprétait des musiques entre guillemets sérieuses. C'était pas des musiques vaporeuses, etc. comme on... Trop souvent, on pouvait demander aux femmes de jouer de la musique. Et cette femme a pris son destin en main puisque elle était d'origine juive de par ses parents, même si elle était protestante. Et au moment de l'Anschluss, elle a dû fuir l'Autriche avec son père. Elle a tout pris en main puisque son père était un vieux monsieur à cette époque, même s'il jouait encore du violon. Ils sont partis à Londres et à Londres, elle s'est sentie enfermée parce qu'en fait, son père, qui était célèbre, avait le droit de jouer, mais elle n'avait pas le droit. Donc, elle ne pouvait jouer qu'avec son père. Et comme elle était déjà habituée à être indépendante, elle a fait un choix tragique et incroyable, elle a décidé de repartir sur le continent.
Oui.
Elle est partie aux Pays-Bas pour pouvoir travailler, pour pouvoir envoyer de l'argent à son père. Et hélas, elle n'est pas rentrée suffisamment tôt. Elle est restée coincée aux Pays-Bas au moment où les Allemands ont envahi les Pays-Bas pour ensuite envahir la Belgique et la France. Elle a continué à travailler aux Pays-Bas. Elle a continué à se produire. Elle a pris tous les risques. Elle a été très entourée. Elle a rencontré des gens. Elle a eu des amis, des amants. Et puis un jour, elle a décidé de revenir en Angleterre. Donc, elle a fui les Pays-Bas avec un autre jeune homme qui était juif également, dont elle ignorait tout. Ils sont arrivés en France. Ils ont réussi à traverser la Belgique. Hélas, elle a été dénoncée, elle a été arrêtée à Dijon, elle est repartie à Drancy. Et là, son destin ne s'arrête pas, parce qu'elle a vraiment un destin extraordinaire, cette femme. Elle est partie à Auschwitz, dans un des trains funestes. Et à Auschwitz, elle n'a pas été sacrifiée, entre guillemets, tout de suite. Elle a d'abord été enfermée à Auschwitz, le camp 1, dans le bloc du docteur Mengele. Donc elle était entre guillemets destinée à être expérimentée entre guillemets par les mains du docteur Mengele. Et enfin on a découvert qu'il y avait Alma Rosé, donc cette femme dans le camp. Et un orchestre avait été créé, un orchestre de femmes avait été créé dans le camp des femmes de Birkenau. Et là la nazie, la SS qui était responsable de cet orchestre, qui avait créé cet orchestre, s'est dit que c'était la chance de sa vie, elle, pour se faire mousser, entre guillemets, auprès de sa hiérarchie. Et donc, elle a décidé de nommer cette violoniste, Alma Rosé, à la tête de l'orchestre. Et ce qui est fantastique dans cette histoire, c'est que dans l'orchestre, il n'y avait que des non-juives. Et Alma Rosé a réussi à faire venir dans l'orchestre des juives. Et toutes les femmes qui sont passées dans l'orchestre, quasiment sauf une qui est morte du typhus, mais elle était déjà, entre guillemets, âgée et déjà malade, toutes les femmes s'en sont sorties. C'est-à-dire que toutes les femmes ont été rescapées des camps parce qu'elles avaient quelques privilèges. Elles ont réussi à sortir... elles sont sorties d'Auschwitz, elles ont été à Bergen-Belsen, mais elles sont sorties de Bergen-Belsen. Elles ont toutes survécu. Et toutes doivent leur vie à Alma Rosé, qui elle-même est morte à Auschwitz de manière, entre guillemets, naturelle, puisqu'on ne sait pas très bien de quoi elle est morte. Mais elle n'a pas été gazée. Mmh. Et cette femme, moi, quand j'ai découvert son... Je me suis dit, mais comment se fait-il qu'on ne connaisse pas cette femme ?
Oui. Un destin extraordinaire.
Ah mais c'est incroyable. C'est pas une femme particulièrement. Quand j'ai écrit le livre, je l'ai fait relire à une amie qui est prof de lettres et qui m'a dit, elle est pas très sympa, elle m'a arrosé. Je dis non, elle est pas sympa. Ça aurait peut-être pas été ma copine. Mais en revanche, c'est un destin. C'est une femme qui se prend en main, qui n'a peur de rien, qui a des doutes, qui a des interrogations, etc. Mais elle a la musique, elle a son violon et elle a voilà, elle donne tout pour la musique. Comme dirait. Comme dirait France Gall et Michel Berger, elle donne tout pour la musique.
Avec aussi au cœur de sa vie la notion d'engagement et d'entraide.
Absolument, absolument, parce que ces femmes, elle les a vraiment. Il y a une déportée, Violette Silberstein, qui a donc été dans l'orchestre et qui raconte que Alma Rosé l'a sauvée 3 fois. Une première fois en lui proposant de rentrer dans l'orchestre à l'essai, une deuxième fois en la prenant définitivement. Et la troisième fois, un nazi l'avait repérée parce qu'elle était très très faible. Elle n'était pas particulièrement bonne musicienne, donc elle aurait pu, Alma Rosé aurait pu entre guillemets la sacrifier. Et un nazi l'avait repérée en disant mais celle-là, elle est vraiment en mauvais état, on pourrait peut-être la gazer entre guillemets. Et Alma Rosé lui a répondu non non, c'est une de mes meilleures violonistes, n'y touchez pas. Mmh. Donc cette femme a été sauvée 3 fois par Alma Rosé. Et elle le dit elle-même, elle n'était pas forcément facile, elle était très exigeante, elle était très dure, mais c'était les camps. Donc pour survivre, il fallait être dur. Mais cette femme a sauvé une 40aine de femmes.
Alors, elle avait une haute idée de son art et elle avait aussi une autre, une idée aussi très haute de, bah aussi de comment dire, de l'aide à l'autre, de la bienveillance et aussi sans doute du caractère sacré de l'existence. On peut dire ça aussi.
Ah, oui, 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 parce que ces femmes, elle leur a toujours trouvé une, même celles qui n'étaient pas bonnes musiciennes, elle leur donnait un rôle, elle leur disait, alors il y avait des copistes, il y avait des, voilà, et elle leur a toujours assigné quelque chose, elle n'a jamais sacrifié une femme pour une autre. Son idée, c'était de tirer l'orchestre vers le plus haut possible, ce qui n'était pas facile parce que c'était pas des professionnels, hein, contrairement aux orchestres d'hommes, mais, elle essayait toujours de leur donner un but, un objectif et de voir au-delà des camps. En se disant qu'un jour ça s'arrêterait et qu'elle ressortirait. Et elle avait même le projet, si elle sortait des camps, de continuer l'orchestre après. C'est-à-dire de compter. La musique a été un vecteur. Et c'est ça qui est extraordinaire finalement. C'est là où on se rend compte que l'art, la musique, moi je ne comprends pas par exemple que dans les écoles primaires, les collèges, les lycées, on ne donne pas davantage de place à l'art. L'art permet de nous comprendre les uns les autres, quel que soit cet art. Et là, c'est la musique classique, mais ça pourrait être autre chose.
Alors, si on revient sur le destin de cette femme extraordinaire, violoniste, on peut dire aussi qu'elle a réussi à frayer son chemin parce qu'elle a eu d'une certaine manière la permission paternelle.
Oui, oui, absolument. Elle a eu la permission paternelle puisqu'elle a été élevée exactement, elle avait un grand frère et en fait elle a été élevée exactement comme son frère. Donc il fallait qu'il y ait un homme qui l'autorise à ça.
C'est ça que je voulais vous dire et en même temps vous faire un petit peu, un petit lien assez contradictoire aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où son père lui a permis d'être ce qu'elle voulait être et encore elle ne savait pas la suite de son existence, eh bien il a œuvré pour la cause des femmes.
Oui, absolument. Absolument. Et il a eu des élèves femmes. Il y a de très bonnes violonistes qui sont passées par son apprentissage, par sa formation. Mais effectivement, lui qui pourtant était, il a épousé la sœur de Gustave Mahler. Justine Mahler est restée à la maison. Elle n'avait pas de métier. Elle s'occupait de l'intérieur, de l'éducation de ses enfants. Mm-hmm. Mais lui, il a été. Donc ça passe par quand tout à l'heure je disais ça passe par les femmes. L'éducation des garçons, ça passe aussi par le regard des hommes.
Oui, bien sûr.
Quand un homme est sexiste, moi j'ai toujours envie de lui dire, mais tu traiterais comme ça ta mère, tu traiterais comme ça ta sœur. C'est là où il faut se repositionner, se replacer dans... Et effectivement, c'est pour ça que dans le roman, j'ai voulu bien sûr raconter l'histoire au travers des yeux d'Alma, mais aussi au travers des yeux d'Arnold. Arnold, c'est un homme de la. Il est né en 1863, il est mort en 1945, si je ne m'abuse. Et c'est un homme de la fin d'un siècle, etc. C'est pas un homme moderne, entre guillemets. Mais il a eu la modernité d'éduquer sa fille pour qu'elle devienne indépendante, pour qu'elle advienne, pour qu'elle s'épanouisse. Et lui, son rêve, ça aurait été qu'elle devienne une grande violoniste soliste.
Donc il percevait les enjeux également de la réussite féminine.
Oui, absolument.
Parce que les femmes transmettent la vie.
Exactement. Même si Alma n'a pas eu d'enfant, elle n'a pas enfanté, mais elle enfantait la musique.
Elle a permis peut-être aux femmes qui sont sorties des camps d'enfanter, de fonder
exactement.
Une famille.
Exactement, il y a des femmes effectivement qui sont sorties des camps, qui sont sorties de, qui étaient dans l'orchestre et qui sont sorties de Bergen-Belsen et qui effectivement ont eu des enfants, fondé des familles, eu des enfants. Il y a même eu la dernière musicienne de l'orchestre qui, pareil, moi j'ai écouté ses interviews, j'ai lu son livre, etc. C'est un monument cette femme. Elle s'appelle Anita Lasker-Wallfisch, elle est violoncelliste, elle est partie à Londres après la guerre, elle est rentrée dans le London Chamber Orchestra, je crois. C'est la dernière survivante de l'orchestre. Mm-hmm. Et cette femme est devenue violoncelliste grâce à l'orchestre, quasiment grâce à l'orchestre du camp finalement. Parce que c'est Alma qui lui a transmis sa rigueur, c'est Alma qui lui a transmis son professionnalisme, et cette femme est advenue en partie grâce à Alma.
Alors, c'est une histoire effectivement que nous racontait Agnès, passionnante, avec beaucoup de déclinaisons actuelles, avec aussi des thèmes de réflexion très très stimulants pour les uns et les autres, qui peuvent être partagés autant par les jeunes gens que par leurs parents et les grands-parents. Et donc l'art pour vous, la culture, c'est aussi un moyen d'aborder des questions qui sont douloureuses, parce que ce livre est douloureux tout de même.
Ah oui, ça je cache pas que ce livre, les retours que j'ai eus, tous m'ont dit c'est passionnant, on apprend des tas de choses. C'est vrai que de temps en temps, on le repose parce que c'est un peu. Alors, c'est pas du tout violent, hein. Il n'y a pas de scène de violence ou quoi que ce soit, mais il y a quand même le récit. Alors, il y a toute une partie qui se passe à Vienne, il y a toute une partie. Voilà, c'est trois récits conjugués. Il y a le récit d'Arnold, il y a le récit d'Alma, et puis j'ai aussi raconté l'histoire par les yeux d'une musicienne. Alors là, j'ai créé le personnage. Je suis partie des personnages, enfin des vraies, véritables personnalités, des véritables histoires des musiciennes, et j'ai créé une jeune fille qui est de mère viennoise juive et de père néerlandais catholique, et qui vit à Amsterdam, qui est arrêtée à Amsterdam, déportée des Pays-Bas, etc. Mais elle revient et elle raconte comment elle revient à la sortie des camps, comment elle appréhende sa vie à venir. Voilà. Mais je sais pas, je voulais très bien en venir là, mais je pense que c'est un livre qui n'est pas facile à lire, mais qui est extrêmement éclairant, même par rapport à notre époque. Ce sont des gens qui, j'allais dire, étaient comme vous, comme moi, et qui, du jour au lendemain, ont été obligés d'émigrer dans un autre pays. Moi, je trouve que, par exemple, par rapport à notre quotidien aujourd'hui, l'émigration dont on entend parler, on ne se met jamais à la place de quelqu'un qui doit quitter son pays de force. On peut partir à l'étranger parce qu'on a envie de voyager, etc. Mais venir d'un pays vers un autre pays, sans rien en connaître, sans connaître la langue, sans connaître la culture, parce que même entre l'Autriche et l'Angleterre, il y a des différences. Moi, j'ai vécu en Angleterre. Je me rends bien compte que on vit pas en Angleterre comme on vit en France. Mmh. Et je trouve que par rapport à aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'on va vivre de toute façon dans les années à venir, revisiter les migrations, qu'elles soient allemandes, autrichiennes ou autres, au moment du nazisme, bah c'est aujourd'hui accueillons les Iraniens, accueillons les Afghans, accueillons les Syriens parce qu'ils sont effectivement persécutés aujourd'hui comme les Allemands l'ont été ou certains Allemands l'ont été au moment du nazisme. Mmh. Ou les Autrichiens.
Oui, sans compter qu'on est tous des migrants potentiels.
Exactement. C'est ça. C'est que demain, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Demain, on peut être obligé de partir, de tout laisser et de partir.
Mmh. Votre livre peut effectivement avoir une résonance avec, avec les problématiques géopolitiques d'aujourd'hui.
Oui, oui, oui. Mmh. Oui, et puis prendre conscience que... Bon, on le sait, hein, aujourd'hui, on est quand même à des tournants. Il y a des pays européens qui sont passés à l'extrême droite, etc. Moi, personnellement, ça me terrifie. Ce n'est pas normal. L'extrême droite n'est pas un courant, entre guillemets, normal. Alors, je ne veux pas faire de politique, mais voilà. Moi, j'ai beau avoir travaillé sur ce livre pendant plus de 2 ans. J'allais dire, je comprends de moins en moins ce qui a pu se passer au moment du nazisme. Comment n'a-t-on rien vu? Et aujourd'hui, je me dis, mais on ne voit rien encore. On n'a pas vu la Chine, on n'a pas vu la Russie. On est d'une naïveté incroyable. Et ce livre permet finalement de reprendre conscience par cette histoire finalement banale. C'est des gens qui voilà, il y a plein de gens qui ont vécu ça. Il y a quand même 6 millions de Juifs qui sont morts dans les camps. Donc, eux, ce ne sont que quelques personnages. Mais souvenons-nous de ce qui s'est passé entre 33 et 45 à l'aune de ce qu'on vit aujourd'hui.
Mmh. Vous vous intéressez, Agnès, au destin particulier qui parle finalement des destins collectifs.
Oui, oui, parce qu'à l'aune de quelques personnes, on parle de tout le monde.
Mmh, mmh. Et je pense que c'est ça également qui vous intéresse dans aussi votre appétence pour transmettre et puis faire comprendre. Hein. Vous aimez l'histoire. Donc quand on aime l'histoire, on aime également transmettre des idées et faire réfléchir.
Oui, parce que je crois que l'histoire bégaye. Elle se répète pas, elle bégaye. Enfin, il faut connaître son histoire. Alors son histoire déjà, l'histoire nationale, mais l'histoire européenne, l'histoire mondiale, pour pouvoir faire des choix demain, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir comprendre. On ne peut pas être dans l'immédiateté tout le temps. Il faut aussi savoir ce qui s'est passé hier pour mieux comprendre aujourd'hui et préparer demain.
Mmh. Alors, vous avez pris, si on parle un peu technique littéraire, vous avez pris le format, on peut dire, du roman.
Oui.
Pour éviter peut-être d'être trop dans le témoignage, même post-mortem, oui, si on peut dire, qui vous aurait peut-être plongé dans des choses peut-être plus difficiles, plus âpres à communiquer.
Oui, puis en même temps, moi, c'est tellement, tellement atroce cette période que j'ai pas de légitimité, entre guillemets. Je suis pas juive, je n'ai pas, ma famille n'a pas vécu d'horreur pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont, entre guillemets, ni d'un côté ni de l'autre, si je puis dire, enfin, en tout cas, voilà. Donc je me disais que j'avais pas de légitime. Vous voyez, par exemple, si j'écris un personnage de la troisième Anna, le troisième personnage, j'aurais pu prendre une musicienne de l'orchestre. Mais je n'ai pas de légitimité pour me mettre à la place de ces femmes-là.
Mmh. En tout cas, donc, vous ne vous donnez pas cette légitimité, donc vous préférez par le roman.
Voilà, donc Alma parle à la première personne, mais parce qu'effectivement, j'ai fait plein de recherches sur elle et qu'il y a des livres qui ont été écrits et que j'ai pu m'inspirer de ces livres. Pareil pour Arnold de Rosé, on connaît son histoire, etc. Mais me mettre à la place de Violette Silberstein ou d'Anita Lasker, qui est encore vivante, ce n'est pas possible. Je peux pas. Il y a trop de souffrance dans cette histoire. Ça serait une autre histoire, voilà. Pourquoi pas? Quand j'ai écrit un récit sur les 10 ans de mariage entre Gustav Mahler et sa femme Alma Schindler, là j'ai fait du roman. Même si c'est toujours basée sur des faits réels, je me suis mis à la place d'Alma, je me suis mis dans la tête d'Alma. Mais je me plante peut-être entre guillemets, hein, peut-être qu'elle pensait pas du tout ça et qu'elle n'était pas comme ça. Alors, j'ai quand même travaillé sur son journal, j'ai quand même travaillé sur ses livres et puis sur ce qu'on avait écrit d'elle. Donc voilà, je pars pas de rien et c'est pas que de la pure imagination. Mais là, je me suis autorisée parce que c'est pas un personnage tragique, Alma Mahler. Mm-hmm. Alors que les femmes qui ont été dans les camps, c'est trop atroce, quoi.
Oui, et puis parler de ce sujet, c'est aussi s'inscrire dans un devoir de mémoire collectif.
Oui, oui.
Donc c'est plein d'enjeux de responsabilité, on peut dire ça également.
Oui, 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 absolument.
Alors, vous ne nous avez pas dit le titre de votre livre, c'est le pays où poussent les boulots ?
Oui, alors le pays où poussent les boulots, parce que ben, Birkenau, ça veut dire... En gros, le pays où poussent les boulots. Il y avait à côté des fours crématoires, un bois de boulots, où ont eu lieu des massacres, etc., etc. Et il y a beaucoup de boulots qui poussent en Pologne. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé ce titre. Je voulais pas que ça soit un titre qui soit en lien avec la musique, le violon, etc. Donc voilà, j'ai décidé de prendre ce. Un jour, je me suis demandé ce que signifiait Birkenau et je me suis dit, ça fera un titre.
Donc le voile est levé sur le titre un peu similaire. Il est paru le 27 février 2023.
Oui, oui, il vient juste de paraître.
Tout récent.
C'est un éditeur, une éditrice, les éditions Hélène Jacob. On peut le trouver en librairie, on peut le trouver sur le site de l'éditeur, on peut le trouver sur les plateformes.
Oui, tout à fait. On mettra les références pour nos auditeurs.
Oui, oui.
Et actuellement, Agnès, vous créez des sites internet pour des entrepreneurs et des artistes.
Oui. En fait, moi, hélas, on ne vit pas de sa plume, hein, sauf quand il y en a quelques-uns qui vivent de leur plume, mais on n'est pas, ils ne sont pas nombreux. Et donc moi j'utilise entre guillemets ma capacité à écrire pour créer des sites internet et notamment pour créer des contenus qui permettent au site internet d'être visible sur le net, sur le web, puisque c'est très facile de créer un site internet, mais après pour que les gens le voient c'est beaucoup plus compliqué.
Oui, alors il y a un travail de biographie concernant certains artistes et puis peut-être aussi un peu de roman, qui sait.
Oui, oui, il faut raconter des histoires. Hein. Un entrepreneur, c'est une histoire. Hein. Donc, il faut raconter l'histoire. Ça, c'est intéressant aussi.
Oui, 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 certainement. Alors, voyez-vous, à l'issue de notre interview, j'ai coutume de tendre une carte blanche à mon invité afin de lui permettre d'aborder un thème qui n'aurait pas été abordé pendant notre interview, ou ça peut être, voyez, une idée d'exposition, un film ou un sujet d'actualité, que sais-je. Pour vous, quelle est cette carte blanche, Agnès Boucher ?
Alors, moi, je voudrais tendre une main à mon éditrice, qui est une femme extraordinaire, qui a créé cette maison d'édition il y a plus d'une dizaine d'années maintenant et qui se bat. Et sa maison d'édition a pour particularité d'avoir au départ privilégié le numérique parce qu'elle est très écolo, donc elle ne voulait pas sacrifier entre guillemets le papier. Alors les livres sont en version numérique et version papier, mais l'impression papier est à la demande, c'est-à-dire qu'il faut le commander au libraire pour que le livre soit imprimé en quelque sorte. Et moi, je voudrais tendre la main à mon éditrice, mais à toutes les petites maisons d'édition, parce que en tant qu'auteur, on aimerait bien en fait que les médias, voire même les libraires, s'ouvrent davantage à la littérature entre guillemets périphérique. Si je regarde le catalogue des éditions Hélène Jacob, il y a franchement des perles, mais on n'a pas la visibilité qu'aura n'importe quel auteur qui sort de chez Gallimard ou de chez Grasset, parce que voilà, il a un réseau, un service de presse, j'allais dire du copinage, j'en sais rien, mais en tout cas toute une machinerie qui permet d'être connue et d'être visible. Et j'aimerais bien que, là, ça peut venir aussi des lecteurs, c'est-à-dire s'ouvrir à d'autres maisons d'édition, s'ouvrir à d'autres choses pour découvrir et aider ces petites maisons d'édition à survivre, parce qu'un jour elles vont disparaître si effectivement on ne les aide pas à advenir. Et si j'ai mis un post récemment sur les réseaux sociaux où je me rappelle plus de la phrase exacte, mais en gros, ça voulait dire, si vous lisez tous la même chose, vous allez tous penser la même chose.
Oui.
Et c'est un peu ça, moi, mon souci, c'est, il faut vraiment, vraiment ouvrir les écoutilles pour, alors c'est pas forcément lire mes livres, etc., mais ouvrir les écoutilles sur d'autres choses pour comprendre, pour découvrir et pour s'enrichir.
Alors, votre appel s'adresse aux lecteurs, aux auditeurs, oui. notamment de Radio Rivage, oui. également aux libraires.
Oui,
hein,
oui.
Là, n'oubliez pas que notre studio est à Arzon, tout près du port du Croistic. Nous avons une nouvelle librairie. Vous avez interviewé très récemment Xavier Dubois, un libraire du port du Croistic. Nous allons transmettre, il va écouter votre interview, votre appel, votre demande. Alors, moi, j'ai pas beaucoup de doutes parce que vous nous dites que maintenant, les femmes savent utiliser leur réseau.
Oui.
Donc, alors, ça peut marcher.
Oui. Oui.
Vous voyez, si on fait un petit rappel du début de notre interview, vous nous disiez, ben voilà, les femmes à l'époque n'avaient pas trop de réseau, maintenant elles en ont. Alors, ça ne peut plus l'énergie communicative que nous entendons à travers cette interview, donc ça ne peut qu'aboutir.
Ah ben écoutez, je le souhaite en tout cas.
Le vent souffle sur la presqu'île de Ruys, donc chacun nous entend. On est bientôt dans la période très attendue de la semaine du golf, riche en événements festifs, mais aussi pas seulement, voyez, maritime. C'est une fête maritime, il y a aussi beaucoup de livres qui vont sortir, d'expositions, de dédicaces. Donc effectivement, cette interview, on va la diffuser, rediffuser. Et puis on attendra d'avoir voyez, les retours du vent et des marées à venir. Donc est-ce que ça vous convient ça, Agnès Boucher?
Absolument, et si des lectrices et des lecteurs veulent que je vienne chez eux leur dédicacer leur livre, c'est pas un problème.
Mais écoutez, vous êtes invitée.
Je suis à Vannes, je reviens dans la presqu'île quand ils veulent.
Mais écoutez, vous êtes l'invitée. Vous savez que Radio Rivage, donc sa ligne éditoriale, c'est la question sociale et la culture, j'ai envie de dire, ça ne fait qu'un. Et puis, c'est aussi, si vous voulez, d'être force de proposition et de relayer tous les projets innovants et les idées qui nous permettent, si vous voulez, de rester en lien.
Oui.
Vous voyez, donc votre appel s'inscrit totalement dans nos besoins et nos désirs.
Absolument.
Bien écoutez, chère Agnès, cette interview se termine. Merci infiniment pour la richesse, la qualité de votre réflexion et puis avec beaucoup de passion pour cette interview pour nos auditeurs de Radio Rivage, de plus en plus nombreux, notamment les jeunes gens qui nous écoutent. Merci beaucoup.
Merci à vous, c'était très agréable. Merci à vous.
Réciproquement, je remercie Marie-Noël, mon assistante, qui m'a aidée à préparer cette interview. Je remercie Bertrand, qui s'occupe du son, de la technique, du montage, qui m'assiste à chaque émission. Je dis à bientôt à nos auditeurs de Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien.
C'était Au fil du lien. Une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.